Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs de Istra. Voilà, je me réjouis dans le Seigneur. Merci à votre pasteur Joël de m'accueillir ainsi que sa famille. Voilà, alors ce matin, bien sûr, le but de ces instants, c'est non seulement de donner gloire au Seigneur, de l'exalter, de le bénir de tout notre cœur. Mon âme bénit l'Éternel, hein. Merci Seigneur. Et tous les jours, nous voulons louer son nom et lui donner gloire. C'est ce que nous voulons faire. Mais ce matin, nous allons revenir un petit peu dans le passé. Et on va lire dans Hébreux 13, 8. Ceux qui étaient là à la longue veille se rappelleront que, eh bien, on a lu ce verset. Alors, je ne sais pas si vous y étiez. Ça fait déjà 19 jours. Hein. Ça passe vite. Hein. L'année est bien commencée, hein, et le temps passe très vite. Mais comme nous le voyons dans Hébreux 13, 8, ce verset qui a été un peu la base de notre méditation, et ce matin, tout simplement, le supplément. Hein, voilà, on fait la suite. Hein. Donc ce verset disait, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Notre Seigneur ne change pas. Nous, on a changé, hein, même déjà depuis 19 jours. Comme disait David, j'avais donné cela, il a dit, « J'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais je n'ai pas vu le juste abandonné. Le Seigneur est fidèle, il est véritable. Les années passent, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur, demeure, subsiste. Et nous sommes appelés à subsister, à demeurer dans le Seigneur. Alors comme nous le voyons au travers de ce verset qui nous parle que le Seigneur ne change pas, qu'il demeure toujours le même, il y a le temps du passé, on a parlé du passé, des événements d'autrefois qui sont là pour nous comme un souvenir, une instruction, ce qui est arrivé à Israël, à l'Église, à la parole de Dieu. Nous ne renions pas le passé, mais le passé, il est passé. Alors ça, c'est la vérité. Hein. Bon, et l'avenir, il n'est pas encore arrivé. Hein. Demain. Ah oui, demain. Qu'est-ce que vous ferez demain, hein? Vous avez un petit programme pour demain? Demain, j'ai ça, demain, j'ai là. Mais demain, il n'est pas encore arrivé. Hein. Il n'y a qu'une chose qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Comme la parole de Dieu le dit. Et même plus précisément, non seulement aujourd'hui, mais ma pensée ce matin, c'est de voir maintenant, c'est-à-dire l'instant présent. Il y a une église qui a donné comme titre, c'est peut-être une inspiration, momentum, hein, c'est le moment. En réalité, il n'y a qu'une chose qui nous appartient, c'est le moment présent. Et maintenant, on le retrouve dans, bien sûr, on va le voir dans la parole de Dieu, ses mains. Et qu'est-ce qu'elle tient, votre main, là? Qu'est-ce qu'elle tient maintenant? Elle tient l'instant présent. Et en réalité, c'est ce qui nous appartient. Mais dans ce temps présent, eh bien, le Seigneur nous accorde sa grâce. Maintenant, dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, 2, voici ce qui est dit, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant, ce n'était pas hier, ce n'est pas demain, le temps favorable, le temps opportun, le meilleur, voici maintenant le jour du salut. » Il y a une chose qui doit être claire et fondamentale dans notre vie, de bien être enraciné, d'avoir cette certitude de notre salut. Un jour, nous avons invoqué le Seigneur, et la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Nous sommes rentrés dans le salut du Seigneur. C'est le moment favorable. Quand Jésus est passé sur le chemin de Bartimée, le mendiant aveugle, vous connaissez bien le passage de l'Écriture, eh bien, la Bible dit, il a crié, hein, Mais s'il avait crié 3 heures avant, ça servait à quoi ? À rien. S'il avait crié après, ben c'était trop tard. Mais au bon moment, au moment favorable, il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et le Seigneur a entendu. Il s'est arrêté, il l'a fait appeler, il est venu, il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ? Que mes yeux s'ouvrent, que je vois, qu'il en soit fait selon ta foi. » Et le miracle s'est produit. Alléluia. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore plus précisément, maintenant. C'est le temps du salut. Maintenant, le temps du salut, c'est la porte qui s'est ouverte, la porte du salut. Le premier maintenant, on peut dire, c'est la porte du salut. Et il faut entrer dans cette porte. Et je veux croire que tous ceux qui sont dans ce lieu, peut-être, je ne dis pas peut-être, mais sont entrés dans ce salut. Ils ont eu le jour du favorable où ils ont crié à Jésus. Jésus s'est arrêté et Jésus leur a dit, « Eh bien, voilà, tu es sauvé. » Et ça, c'est important d'avoir comme fondement cette assurance de notre salut. Il y a des gens, on leur dit, « Est-ce que vous croyez que vous serez sauvés, etc. » ou « Vous êtes enfant de Dieu. » Ils disent, « Bon, je ne sais pas, on verra. Peut-être il y a le purgatoire. Après le purgatoire, j'irai au ciel. » Enfin, voilà, ils n'ont pas trop d'assurance. Ils ne savent pas. Mais que ce matin, vous puissiez savoir que maintenant, eh bien, si vous avez invoqué le nom du Seigneur Jésus, le Sauveur, le seul Seigneur, le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous sommes sauvés, vous l'avez invoqué, vous avez cru en lui et vous avez reçu l'assurance de votre salut. Vous êtes passé par la porte. Est-ce que vous êtes tous passés par la porte ? Ah, là, il y a un grand amen. Mais il y a peut-être quelques personnes, des fois, au milieu de nous qui viennent et elles sont encore devant la porte. Hein? Elles sont sur la porte. Hein? Un jour, Jésus a dit à un jeune homme, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'est bien. Il n'était pas loin. Il avait bien parlé. Mais Jésus l'a invité, en somme, à entrer. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous sommes entrés. Aujourd'hui, maintenant, la porte est ouverte, mais demain, elle peut se fermer. Et demain, on ne sait pas si demain, c'est demain. Elle peut être fermée. Un jour, la porte de l'arche, la Bible dit, c'est... Noé est rentré, sa famille est rentrée, comme on connaît, mais la Bible dit, Dieu a fermé la porte. Il y a un jour de salut, mais il ne faut pas laisser la porte se fermer. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce, un jour de salut, un jour de vie, un jour où j'invoque le Seigneur et le Seigneur entend, il nous secourt et son secours est véritable. Il ne manque jamais à sa parole, à ses promesses. Alors Paul disait, saisis la vie, saisis, ne laisse pas passer l'occasion favorable, le moment opportun. Ne laisse pas passer le temps de la grâce, du salut, mais entre dans cette vie. Et après, il y a la porte, mais il y a le chemin. Jésus a parlé d'une porte étroite, mais il a parlé aussi d'un chemin étroit. Et quand on passe par la porte, j'allais dire, il faut fermer la porte derrière, il ne faut plus retourner en arrière. Hein. Mais il faut continuer sur le chemin, jusqu'au but, jusqu'au grand jour où le Seigneur reviendra. Et si nous sommes entrés... Et si nous avons connu le maintenant du salut en Jésus-Christ, eh bien nous avons un autre maintenant, puisque la vie chrétienne, comme toute chose, c'est une progression. C'est un commencement, mais il y a une suite, il y a une marche. Et avec le Seigneur, on doit marcher, parce que la Bible dit, c'est bien celui qui persévérera qui sera sauvé. Maintenant, eh bien Jean, l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, chapitre 3 et verset 2, ça va apparaître. Il nous appelle bien-aimé. Vous voyez, on sent que c'est un homme de cœur, c'est Jean, c'est l'apôtre de l'amour, hein, on le sait. C'est celui qui posait sa tête sur le cœur de Jésus. C'est celui qui a été, parce qu'il aimait le Seigneur, il est resté attaché. Si les autres disciples, à l'heure de l'épreuve, parce que dans la vie, il y a toujours des épreuves. Il y a des tests, La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. Il y a le mauvais jour. Et il y a eu le mauvais jour. Le mauvais jour, eh bien, face à la tentation, à Gethsémané, où les soldats sont venus, les serviteurs sont venus, ils ont saisi Jésus. Et là, la Bible dit, eh bien, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas restés fidèles. Ils l'ont abandonné. Au jour de l'épreuve, peut-être qu'ils disaient, oh, mais Seigneur, et d'ailleurs Pierre le dira, t'abandonner parce que Jésus l'avait prévenu. Il a dit, ah, mais non, Seigneur, tous t'abandonneraient, mais moi, jamais. Mais les disciples l'ont abandonné. Pierre, lui, il a renié. Judas l'a vendu. Mais Jean est resté fidèle. Nous avons un exemple, que si on passe par la porte du salut dans le Seigneur, eh bien, nous avons besoin. Ceux qui aiment le Seigneur restent attachés à lui. Hein. Ils restent fidèles. On est liés. Non pas parce que pendant 3 ans, ils avaient été avec Jésus. Comment se fait-il? Ils ont abandonné le Seigneur. On ne va pas leur jeter la pierre, loin de là, parce que la faiblesse est aussi notre partage. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et nous savons que nous sommes faibles. Mais le Seigneur est fidèle, il nous tient dans sa main. Et il ne faut pas lâcher aussi sa main. En attendant, dans Jean 2, 3, l'apôtre Jean dit « Bien-aimé ». Alors, c'est l'épître. Ah, excusez-moi. Pardon, mea culpa, c'est ma faute. J'ai oublié le 1. Alors, c'est l'épître de Jean, chapitre 3, verset 2, mais c'est l'épître. Ce n'est pas l'évangile. Hein. Je vous le cite, ça va apparaître, ne vous inquiétez pas. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est une réalité. C'est un privilège, c'est une grâce. Nous qui sommes sauvés. Nous qui avons donné notre cœur et notre vie au Seigneur, nous qui sommes passés par la porte du salut, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des gens du dehors, nous ne sommes pas des gens de ce monde. Plus que cela, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a appelés, nous a témoignés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. La preuve, c'est que dans notre cœur, on a reçu le témoignage du Saint-Esprit qui rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage dans votre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui a dit « Je te fais enfant de Dieu ». Il y a des rituels, non. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, nous sommes régénérés. Et c'est un commencement. Nous sommes devenus, nous avons commencé à devenir une nouvelle créature. Et nous continuons à rester dans la main du Seigneur qui nous donne d'être transformés, métamorphosés, à son image. Bien-aimés, nous sommes, il n'est pas dit, nous serons enfants de Dieu. Il est dit, nous sommes aujourd'hui, maintenant, ce matin, enfants de Dieu. Et c'est une manifestation de l'amour de Dieu qui nous a envoyé le Saint-Esprit dans notre cœur, qui nous donne de pouvoir appeler Abba Père. Tu es mon Père, tu es notre Père, notre Père. On dit « mon père », c'est particulier. Non, nous disons « notre ». Parce qu'ici, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Non pas qui seront enfants de Dieu, mais qui sont enfants de Dieu, qui ont reçu le témoignage dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et là, dans ce passage, il est dit « alors, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons, le futur, ce que nous serons, pas fini, vous voyez, c'est un commencement, la vie chrétienne, c'est un commencement. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Parce que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Ça, c'est le final, vous voyez, c'est le bouquet, c'est l'apothéose. Ce que nous serons, nous étions, pécheurs misérables. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons, ce que nous sommes, sera un jour manifesté au grand jour et sera visible, parce que la Bible, nous le verrons tel qu'il est. Puisque Jésus a dit dans l'Évangile, dans cette prière devant le Père, il a dit qu'il voit. On ne comprend pas toujours. On dit, bon, le ciel, le royaume de Dieu. Mais Jésus a prié pour qu'un jour, nous voyions sa gloire. La gloire du Seigneur. Que nous ayons part à sa gloire, à son royaume, nous qui sommes enfants de Dieu. Alors même si le monde est chamboulé, même si le monde bascule, même si le monde est malheureusement dans... on pourrait dire en convulsion, Jésus a dit, mais quand vous verrez toutes ces choses, ce n'est pas le moment de baisser la tête, mais levez votre tête, car votre délivrance est proche. Troisième maintenant, allez on continue, Romains 8, 1. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Christ, les enfants de Dieu, ceux qui sont dans le salut du Seigneur, qui sont rentrés, eh bien, le Seigneur a enlevé la condamnation. C'est une bonne nouvelle, ça. Hein? Le mot qui est employé là, dans l'original, c'est katakrima, qui veut dire tout simplement punition. Alors, on pourrait redire, il n'y a donc maintenant aucune punition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La punition, mais il y avait une punition. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. C'est lui qui a pris notre punition, c'est lui qui a pris le salaire du péché, c'est lui qui a pris notre condamnation. C'est ça être sauvé, c'est ne plus être sous la colère de Dieu, le jugement de Dieu. C'est vrai que nous, enfants de Dieu, nous serons appelés à passer devant le tribunal de Christ, mais c'est un tribunal, non pas de condamnation, de punition, mais c'est un tribunal de récompense, parce que le Seigneur récompensera ses serviteurs fidèles. Alléluia. Hein? On recevra des couronnes de vie, de gloire, peut-être que sur la terre, on ne recevra rien du tout. Quoi, hein? Je ne vous vois pas trop couronné, il n'y a pas trop de têtes couronnées ici, non? Ça, c'est la reine d'Angleterre ou l'autre. Bon, couronné. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de punition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous attendons, disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, nous attendons des cieux son Fils qui vient, qui nous délivre de la colère à venir. La Bible dit qu'il y a une colère qui sera révélée, une juste colère de l'agneau, face à ceux qui aiment le péché, ceux qui aiment l'injustice, qui vivent dans l'iniquité, puisqu'on le sait, si le livre de vie est ouvert et le royaume de Dieu accueille les élus, les fidèles, enfin, etc., eh bien, la Bible dit, dehors les impudiques, dehors les profanes, dehors les menteurs, dehors, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de place. Donc, pour nous, eh bien, nous savons qu'il y a un jugement, une condamnation qui vient, le trône blanc, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais pour nous, enfants de Dieu, maintenant, eh bien, nous savons qu'il n'y a pas de punition, de condamnation, que le Seigneur l'a prise à la croix. Cette condamnation, lui, il a été condamné afin que nous, eh bien, nous ayons la paix avec Dieu maintenant, nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions marcher fidèlement avec le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit bien d'annoncer la bonne nouvelle et dit « Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce n'est pas que le Seigneur le condamne d'une manière directe, mais c'est lui qui se condamne lui-même parce qu'il refuse l'amour de Dieu, il refuse d'être sauvé. Alors que le Seigneur a tout fait et accompli, il a payé à sa place. Si on vous disait demain vous êtes condamné à ce tribunal, eh bien vous avez fait une faute, à un PV, allez, prenons un PV, ça arrive, ça. Et, n'est-ce pas, vous avez passé la vitesse, donc vous recevez une... à payer. Et si on vous disait, ah ben, moi, je paye pour vous, qu'est-ce que vous diriez ? Ah, merci, ah oui, j'étais sûr, ça. Hein. Si vous payez pour moi, je vous dirais merci. Hein. Si votre banquier vous téléphone demain, hein, et qui vous dit, ah, vous aviez un crédit, une dette, bon, allez, ça y est, vous ne devez plus rien. Vous lui direz merci. Hein. Vous voyez, ça, c'est peut-être l'annonce d'une bonne nouvelle, hein. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Et si vous vous refusiez, on vous dit, ben, vous ne devez plus rien. Ah non, non, je... Nous ne devons jamais refuser la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Il a payé pour... Il a payé cher, il a payé de sa vie, de son sang, de ses souffrances, de sa mort, de sa couronne d'épines. Alors nous pouvons que dire merci Seigneur pour ta grâce. Il n'y a plus de condamnation, de punition, de purgatoire, etc. De pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ, ils marchent avec le Seigneur. Quatrièmement, Romains 6, 22 à 23, qui nous dit ces paroles. Mais maintenant, étant affranchis du péché, parce que c'est pour cela que le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais libres de quoi ? Libres face au mal. Avant, nous étions obligés. Notre nature pécheresse dominait notre vie. La vieille nature était là. Eh bien, nous étions dominés. Forcé, esclave du péché. Mais c'est pour cela que le Seigneur est venu, non seulement pour nous préparer une place dans son royaume, que nous soyons semblables à lui, mais pour nous libérer, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais esclaves de Dieu, et pour fruit, la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. C'est là. Maintenant, vous êtes libres. Vous êtes affranchis. Maintenant, si vous êtes affranchi et libre, c'est pour devenir esclave de la justice, esclave de Jésus-Christ et de l'amour. Ça, c'est la consécration, en somme. Je ne suis pas libre pour faire n'importe quoi. Le Seigneur ne m'a pas affranchi en vain. Non, il m'a affranchi parce que maintenant, aujourd'hui, je considère ma vie comme appartenant au Seigneur. Appartenant au Seigneur. Paul, quand il écrit dans ses épîtres, vous ne l'avez peut-être pas fait attention puisque ça c'est dans l'original, mais quand il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, serviteur, il faudrait mettre le terme doulos qui signifie esclave de Jésus-Christ. Je suis libre face au péché pour devenir esclave de la justice, de la lumière et de l'amour. Maintenant, c'est le Seigneur qui est le maître de ma vie. Maintenant, l'Écriture dit dans Romains, « Maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice. Donnez-vous vous-même à Dieu, de mort que vous étiez dans le péché et de vivant que vous êtes. » Maintenant, vous vivez pour l'amour du Seigneur, vous vivez pour la vérité, vous vivez pour la justice, vous vivez pour la paix. Vous vivez selon le Seigneur. En somme, notre vie, nous la plaçons sur l'autel du Seigneur. Et maintenant, Éphésiens 2, 19, il est dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Littéralement, c'est émigrés, hein, des gens du dehors, du loin, n'est-ce pas ?« Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » La maison de Dieu, c'est l'Église. Vous êtes membre du corps de Christ. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est là. Hein. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est chacun d'entre nous. Nous sommes quoi ? Une pierre. Et toutes les pierres ensemble, elles forment un édifice, un temple saint du Seigneur. Et le Seigneur demeure au milieu de ses enfants. Hein. Dieu siège au milieu des fidèles. Le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Là où deux ou trois sont assemblés à son nom, ensemble, il est là, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui fait notre grâce et notre bénédiction ce matin, notre joie, notre paix, notre assurance, notre réconfort, c'est de savoir qu'il est là, n'est-ce pas ? Par son esprit, invisible, mais il est là, présent, dans son Église. Le plan du Seigneur, ce n'est pas simplement maintenant d'être sauvé, ça commence, mais c'est de nous intégrer, de nous ajouter. D'ailleurs, la Bible le dit bien dans Actes des Apôtres, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous ne sommes pas appelés à rester seuls, mais nous sommes appelés à être ensemble. Et ce matin, il est bon d'être ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. J'avais prêché sur ça, hein, n'est-ce pas ? Alors, il faut rester ensemble. Unis, non pas physiquement, parce qu'on peut être dans le même lieu, mais spirituellement, dans les liens de l'esprit, dans les liens du cœur, de la paix, de l'amour. Et ça nous représente la maison de Dieu. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Et j'aime beaucoup ces chants qui disent « Que j'aime la famille de Dieu, nous aimer les uns les autres. » Non pas d'un amour d'extérieur, de semblant. Dans le monde, on s'aime aujourd'hui, demain on se haït, n'est-ce pas ? Non, non, c'est s'aimer avec des liens solides, des liens véritables que rien ne peut rompre. Parce que ensemble, d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, vous avez remarqué, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il y en avait 120, un peu comme nous là, vous voyez ? Ah ben une bonne Pentecôte là, hein, n'est-ce pas ? Ah Seigneur, envoie hein, 120. Mais vous savez, et j'aime le dire que 500, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans son épître aux Corinthiens, 500 ont vu Jésus vivant et ressuscité. Vous savez qu'il s'est montré à ses disciples, à Marie de Magdala, etc., à Pierre, il s'est montré à ses disciples. Et un jour, il s'est montré à 500 disciples. Mais dans la Pentecôte, il n'y en avait que 120. Où étaient les 381 ? Ils n'étaient pas là. Et peut-être qu'il en manque, parce que le Seigneur, il veut rassembler, unir les 120, remplis de l'Esprit. Justement, il forme, c'est là qu'est née l'Église. Et le plan de Dieu, c'est le salut individuel pour nous intégrer dans l'Église, qui est le plan divin, n'est-ce pas ? Parce que c'est le mystère caché de tout temps, l'Église, qui était annoncé par les apôtres, annoncé par les prophètes, pardon, annoncé, Jésus a dit du temps avec ses juifs, il leur dit, mais moi je bâtirai mon église future, vous voyez, il annonce, mais il bâtit son église. Aujourd'hui son église, elle est réelle, elle est dans le monde, et bientôt il viendra, comme on l'a chanté, chercher sa bien-aimée, son épouse fidèle. Mais comme l'Écriture nous le montre, l'épouse, elle ne doit pas devenir adultère. Si on aime le monde plus que le Seigneur ou sa vie, il faut que le Seigneur soit aimé le premier dans notre vie, ne l'oublions jamais. Ainsi, nous dépendons des uns et des autres. Et enfin, 1 Jean, premier épître de Jean, j'espère que j'ai bien marqué, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Maintenant, demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Je crois que c'est terrible d'être éloigné du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être toujours près du Seigneur. Ceux qui renient le Seigneur, l'abandonnent, c'est parce qu'ils ont laissé une distance. C'est dangereux quand on prend une distance. Quand on voit les choses de loin, on les voit petites. Quand on est près, on les voit grandes. Hein. Ceux qui sont devant me voient grand. Ceux qui sont au fond, ils me voient plus petit. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Hein. Parce que j'ai entendu des personnes disaient « Oui, mais on sera dans le ciel avec Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, mais tous à la table du Seigneur. » Je dis « Mais où je vais être à la table ? Là-bas au fond, je vais voir le Seigneur. » Vous inquiétez pas, hein, quand même. Il ne faut pas s'inquiéter. Le tout, c'est d'y être. Hein. mais restons près du Seigneur. Comme ça, il n'y a pas d'occasion de chute. Maintenant, petits enfants, demeurez. Le mot, c'est meno, qui veut dire, et c'est un mot qui correspond bien à l'apôtre Jean. Dans son évangile, il le dit 40 fois. Vous vous rappelez, demeurez dans ma parole. Il cite toujours, demeurez dans mon amour. Demeurez, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, il porte du fruit. Demeurez, ce n'est pas passé. Hein, des fois, on voit des gens passer. Hein. Mais demeurer, c'est habiter. Hein. Votre pasteur, il demeure au premier étage. Vous savez où il est. Hein. Il n'est pas en voyage. Ah, il y a un temps pour les voyages aussi. Mais il demeure. Vous savez où il habite. Hein. Quand on ne sait plus où on habite, c'est grave. Hein. Aïe, aïe. Demeurer. On est... Demeure. C'est solide, c'est enraciné, c'est fondé. Un jour, il m'était arrivé chez moi, au début, j'avais acheté un arbre planté, c'était un abricotier. Et alors, j'ai dit, tiens, je vais le mettre là. Et puis après, ma femme et le maire sont venus, ils ont dit, non, il n'est pas bien là, donc il faudrait le mettre là, à force. Après, si, je vais faire un abricotier qui se promène dans le garage. Ah non, un peu plus là, un peu plus. Non. Si on veut qu'il prenne racine solide, il faut qu'il soit bien, il demeure. Demeurons dans le Seigneur. Soyons pas des visiteurs, des passagers, non. Demeurez, meno. Hein. Et on le trouve dans l'épître de Jean, la première et la deuxième. En tout, Jean le dit plus de 66 fois, demeurez, soyez demeurés, afin que lorsqu'il paraisse, vous ayez de l'assurance. Assurance, c'est la foi qu'à son avènement, eh bien, nous ne soyons pas éloignés de lui, mais nous soyons près de Jésus. Et pour terminer, dans l'Apocalypse, eh oui, il faut finir par l'Apocalypse, c'est comme ça, les dernières paroles, le dernier chapitre, dernier message de Dieu adressé à l'humanité, mais à son Église, à chacun d'entre nous. Dans le chapitre 22, Jésus dit au verset 7, « Voici, je viens bientôt. » Au verset 11, il dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, ma récompense. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Après, au verset 17, l'esprit et l'épouse disent « Viens, viens, viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, vienne. Et puis à la fin, il est dit « Oui, viens bientôt ». Ah, ça c'est nous. Hein. « Viens bientôt », c'est le cri de l'épouse. L'esprit et l'épouse disent « Viens, viens, viens bientôt ». On attend le Seigneur. On attend le Seigneur. Et alors la réponse, c'est… Si le Seigneur dit, oui, je viens. Demain, on ne sait pas. Maintenant, plus tard, on ne sait pas. Comme je dis, moi, ça fait 58 ans que j'attends le Seigneur. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous l'attendez. Hein. Depuis que je me suis converti, on m'a dit, le Seigneur revient. Alors, il faut être prêt. Ah oui, prêt, il faut être prêt, il faut attendre, il faut être en règle avec lui, il faut avoir son cœur, il faut être persévéré, il faut garder les yeux. Oui, ça fait 58 ans. Mais dans l'Écriture, il est dit, s'il tarde, attends-le encore. Il faut l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Il ne faut pas ressembler à ses serviteurs, vous connaissez la parabole, ils ont dit, le maître tarde, ils se sont endormis, les vierges folles, vous vous rappelez, ils se sont endormis. Puis quand on a dit, l'époux est là, ils ont dit, vite, on se prépare. Ils sont arrivés, mais ils étaient en panne d'huile, hein, panne de lumière. Non. Nous, on est prêts, hein, attention. Ce n'est pas le moment de dormir, de faire comme Eutychus qui était à la Réunion. Ah, il y avait un bon prédicateur, l'apôtre Paul. Hein, puis c'était, mais il s'est endormi quand même. Hein, ouais, il s'est endormi. Heureusement qu'il est tombé, enfin, on a fait venir le SAMU. Il a été réveillé, l'apôtre Paul a fait une prière de résurrection, n'est-ce pas? Et il est revenu à la vie. Dieu fait grâce. Mais ça, c'est un cas unique. Attention, soyons prêts. Alors, oui, le message dit, oui, je viens bientôt. L'Esprit et l'Épouse, vous voyez, l'Épouse, c'est l'Église qui est en accord avec le Saint-Esprit qui nous donne. Et ensemble, ils disent, oui, viens bientôt. Oui, viens bientôt. Oui, viens Seigneur Jésus. Dernière part. Alors, je dirais ce matin, vous connaissez cette parole, Maranatha. Ah, Maranatha. Allez, on est araméen maintenant, hein. En araméen, ça veut dire « Oui, viens Seigneur, oui, viens Seigneur, nous t'attendons. » Parce que le salut, le maintenant du salut, de la grâce, de la transformation, etc., eh bien, s'accomplira quand le Seigneur va revenir. Et c'est celui qui a le pouvoir de nous préserver de toute chute, dit Jude, et de nous faire paraître devant lui dans sa gloire. Il vient. D'ailleurs, c'est le message de l'Apocalypse. Il commence comme ça, l'Apocalypse, et il finit comme ça. Il vient, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Son retour, c'est, il apportera la rédemption au jour, la rédemption de notre corps au jour où il va revenir. Et là, c'est la délivrance, c'est le salut complet, total et définitif. D'ailleurs, le message de l'Apocalypse, vous avez remarqué, il y a un contraste terrible entre, d'un côté, il y a sept béatitudes, et eh oui, heureux, heureux, heureux. Puis d'un autre côté, malheur à ceux qui... Mais aujourd'hui et ce matin, c'est l'heure de la grâce. À lui soit la gloire, dit l'apôtre Pierre. Maintenant, maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur, parce que tu vas revenir selon ta parole. Nous t'attendons et nous voulons être de ceux qui attendent avec vigilance, avec prière. Tu nous dis de veiller, de prier. Pour nous, ce n'est pas l'heure de nous arrêter, ce n'est pas l'heure de regarder en arrière, ce n'est pas l'heure d'abandonner. C'est l'heure maintenant d'être fidèle, d'avoir un cœur bien ancré en toi, de demeurer en toi. Afin que tu demeures en nous par ton esprit, Seigneur, et que tu nous communiques toute la force nécessaire pour résister à toutes les séductions, pour résister à toutes les épreuves, à toutes les tribulations qui peuvent se produire dans la vie, dans notre monde, afin que nous soyons debout pour ce jour glorieux. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as le pouvoir de nous tenir fermes, de tenir notre main, Seigneur, de nous rendre solides. Tu veux que nous soyons fermes, inébranlables, persévérants, toujours louant et glorifiant ton nom. Oui, Seigneur, notre cœur aspire. C'est là notre prière avec le Saint-Esprit. Viens, Seigneur, afin que nous ayons part à ta gloire, à ton royaume, à ta félicité. Merci pour ce temps présent. Merci parce que maintenant, c'est le temps encore de la grâce. Merci parce que tu nous donnes d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de persévérer jusqu'au jour de ta venue, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.